Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
On s'en va maintenant à Paris, rejoindre Daniel Terp, qui est dans le vestibule d'un grand appartement, d'une grande maison-appartement parisienne. Il s'est réfugié là parce qu'il pleuvait. Mais Daniel Terp, qui est-il? C'est le nouveau membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Antoine Robitaille. C'est vrai que le temps est maussade. J'aurais aimé vous faire cette entrevue devant l'église Saint-Sulpice. Devant le café de la mairie, mais voilà, donc il n'y a pas de lieu de me réfugier ici, dans le vestibule.
Daniel, maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est êtes-vous le Danny Laferrière des juristes, au sens où vous avez été intronisé à l'Académie française des sciences, et je rappelle que vous êtes professeur de droit, donc êtes-vous le Danny Laferrière des juristes?
Pas tout à fait, Antoine, parce que Danny Laferrière, c'est le membre titulaire de l'Académie française qui a le droit à l'épée, le costume, mais l'Académie des sciences morales et politiques, c'est une des cinq académies de la même institution française, donc fait partie de l'Académie française, qui a aussi ses membres titulaires, mais qui a aussi des membres correspondants, qui sont souvent des étrangers, et dans mon cas, un Québécois, et je succède d'ailleurs à mon collègue, mon ami Jacques-Yvan Morin, qui a été pendant très longtemps membre correspondant. Mais il n'y a pas une grande différence, semble-t-il. On peut parler, on peut s'exprimer, on peut poser des questions aux autres académiciens et à leurs invités. Et je l'ai déjà fait, d'ailleurs, lundi.
Alors, vous succédez à Jacques-Yvan Morin. Il a été intronisé à quel moment, Jacques? Il avait été intronisé à quel moment, Jacques-Yvan Morin?
En 2006, si je me rappelle bien, donc il a passé plus de 15 ans comme membre de cette académie. Il participait aux travaux de l'académie. Ces travaux-là, c'est des travaux qui amènent les académiciens et les membres correspondants à se réunir presque tous les lundis de chaque mois. Il y a des conférences sur un thème particulier. Cette année, le thème, c'est « Regard sur la justice ». Alors, j'étais très intéressé dès lundi dernier à entendre le président de la Cour de cassation de France qui est venu parler de la situation du Conseil de la magistrature en France. D'ailleurs, j'ai parlé de notre Conseil canadien de la magistrature et des quelques petits problèmes que nous avons avec des juges dont on a recommandé la destitution. Alors, j'ai informé un peu les gens de l'Académie de ce qui se passait au Québec en matière de justice.
Ah oui, et quelle différence on peut tracer entre ces situations-là, la situation française et la situation québécoise et canadienne?
Ben écoutez, il y avait un problème sérieux avec le système de justice de France. Il y en a encore un problème sérieux. Puis, ils ont eu quand même le courage de convoquer des états généraux sur la justice en France. Et ça a donné lieu à un débat qui a été vu comme étant très, très bien organisé, qui a donné lieu à une participation citoyenne importante. Et il y a eu un rapport qui a été rédigé par Jean-Marc Sauvé, et qui présentait un nombre de recommandations qui ont déjà été mises en œuvre. Et moi, j'ai dit à mes collègues qu'on était mûrs au Québec pour des états généraux, parce que nous aussi, on a des problèmes avec notre système de justice au Québec.
Oui, c'est ça. Et vous pensez au problème de la nomination des juges. Par exemple, j'ai lu votre texte dans Le Devoir. Qu'est-ce qui cloche avec la nomination des juges?
Ben écoutez, d'abord le problème de la nomination des juges en est un qui porte sur, par exemple, au Québec, le fait que les cours du Québec, ces juges ne sont pas nommés par le gouvernement du Québec, sont nommés par le gouvernement du Canada. Ça, c'est un problème qui existe depuis le début de la Fédération en 1867. Ça crée des problèmes comme parce qu'on n'a pas le droit de transformer nos tribunaux en nommant des juges au Québec parce que c'est des juges qui devraient être nommés par le Canada. Et il y a le problème dont on a beaucoup parlé, et notamment dans les médias de Québécois, celui de la destitution des juges, le fait que ça prenne beaucoup de temps et qu'on puisse être payé, on puisse aussi se faire rembourser ses frais d'avocat. Et il y a le grand problème de l'arrêt Jordan qui fait que tant de poursuites ont été arrêté à cause des délais, puis le délai, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel de justice, il n'y a pas assez de juges, ou il n'y a peut-être pas assez de juges qui travaillent assez fort. Alors, donc j'ai évoqué ces questions-là, puis je pense qu'ils ont bien apprécié, nos collègues français, connaître un peu les difficultés qui ressemblent beaucoup aux leurs aussi.
Et on peut les envier sur quoi? Et eux peuvent nous envier sur quoi? Dans quelle dimension ils peuvent nous envier de notre système? Et inversement, quelle dimension on peut envier du leur?
Je pense qu'il n'y a personne qui peut envier personne dans les circonstances actuelles. Si ce n'est que vraiment, il y a plusieurs recommandations du rapport des États généraux sur la justice qui ont commencé à être mises en œuvre. On a beaucoup investi dans le personnel de justice, dans l'informatisation, la numérisation. On commence probablement à être plus avancé que nous au Québec là-dessus. Puis il y a toujours le débat en France sur est-ce qu'on devrait continuer de former des juges à une école de magistrature. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on puisse, dès un très jeune âge d'ailleurs, être juge, puis de ne pas avoir, comme au Québec, au Canada, été avocat ou maintenant notaire pendant 10 ans, d'avoir une expérience? Et donc, ça, c'est des choses, d'ailleurs, qu'on devrait débattre au Québec. Le ministre Jolin Barrette, moi, je l'incite à convoquer des États généraux parce qu'il est temps d'amener ensemble autour d'une table tous ceux qui s'intéressent à notre système de justice et qui pourraient trouver des solutions aux difficultés que nous avons et dont il est question presque tous les jours maintenant dans les journaux.
Moi, je croyais que l'idée de faire en sorte que les juges soient formés par une école de la magistrature, ça, c'était enviable. J'entends souvent des Québécois dire on devrait avoir des juges formés à une telle école plutôt qu'avoir uniquement des praticiens. Et ça n'a pas l'air d'être votre avis, Daniel Turp?
Ben, écoutez, moi, j'aimerais bien débattre la question et j'aimerais vérifier si on serait mûr pour un système où on forme des magistrats plutôt que des avocats qu'ils deviennent. Puis vous vous rappelez tous les problèmes qu'il y a eu avec les nominations partisanes qui
étaient
déterminées par une contribution à un parti politique. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on évite lorsqu'on a une école de la magistrature et on nomme des juges à partir de ceux qui graduent de cette école de la magistrature. Mais ça a des désavantages. En France, il y a des syndicats, il y a des grèves de magistrats qui résultent de revendications syndicales. Mais moi, j'aimerais bien débattre la question. Mais vous voyez qu'on frapperait un certain mur à un moment donné, parce que si on faisait une école de la magistrature, on voulait nommer nos propres juges, il faudrait faire des modifications à la Constitution du Canada pour y arriver, parce que là, les juges sont nommés par le gouvernement du Canada, en tout cas les juges des cours supérieures, cours d'appel. On nomme, nous, les juges de la Cour du Québec et de certains tribunaux administratifs, mais ça m'amène, et ça m'a amené, vous l'avez lu dans les journaux, dans Le Devoir, à dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter de modifications à la pièce, de réformes à la pièce du système de justice. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de faire des réformes globales. Et c'est la bâtonnière du Québec, je l'ai souligné, qui en 2017 avait elle-même proposé des états généraux sur la justice. Alors moi, je réitère cette proposition 7 ans plus tard et j'espère être entendu par le gouvernement et le ministre de la Justice, Jolin Barrette.
Oui, cette bâtonnière disait que le système de justice n'avait pas évolué au même rythme que la société. On On pense à c'est un propos assez général. On pense à quoi en particulier?
Je crois qu'on pense surtout à la capacité de rendre justice rapidement. T'sais, que des délais inacceptables soient à l'origine de problèmes. En matière familiale, par exemple, il y a des jugements qui prennent un temps fou. En matière de jeunesse, et là, toutes les personnes qui sont impliquées dans des litiges se constatent que le système de justice ne leur rend pas justice dans des délais appropriés. Et moi, je crois que ça vaudrait la peine d'entendre les gens puis des experts qui pourront formuler des solutions qui seraient valables au Québec et qui changeraient l'état des choses.
Mm-hmm. L'Académie dont vous faites partie ne prend pas de décision comme telle. C'est d'abord et avant tout un forum, d'après ce que je comprends.
Oui, c'est un forum de débat, de discussion qui reçoit des invités prestigieux selon le thème. D'ailleurs, moi, j'étais déjà intervenu devant l'Académie il y a quelques années lorsque le thème était la vie internationale et le droit. Et j'avais été invité par le juge Gilbert Guillaume, qui est d'ailleurs celui qui m'a présenté lundi dernier, qui a été président de la Cour internationale de justice, et j'avais fait une conférence sur le Québec et le droit international. Comment le Québec, avec sa doctrine générale Lajoie, puis avec sa loi sur le ministère des Relations internationales, ses délégations, sa représentation à l'Organisation internationale de la francophonie, était devenu un vrai sujet de droit international, un vrai... Un acteur qui avait même une personnalité internationale, comme l'a écrit d'ailleurs Jacques-Yvan Morin. Et donc, il y a des gens qui sont là, qui sont intéressés, qui posent des questions. Il arrive que le gouvernement ou même le Parlement peut demander des avis à cette académie, comme aux autres académies, sur des sujets d'actualité. Il y a eu un avis sur le mariage de gens de même sexe là, par l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, l'avis n'était pas très favorable. Alors, si j'avais été j'aurais probablement pu exprimer ou voulu exprimer une dissidence sur cette question.
Donc sur un sujet français, alors que ce serait des étrangers qui s'exprimeraient là-dessus, alors, c'est ça?
Puis puisqu'ils nous invitent, on est membre correspondant, j'imagine qu'on pourrait exprimer notre opinion. Alors moi, je ne me gênerais pas pour exprimer mon opinion sur cette question, sur d'autres questions.
Ça va changer votre vie en terminant? Est-ce que vous allez être souvent à Paris? Vous vous dites qu'il y a des réunions tous les lundis. Là. Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez devenir un Parisien comme Mathieu Bock-Côté?
Que je vais rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais lui donner rendez-vous au Café de la Mairie à Mathieu pour qu'on échange sur la situation politique en France et au Québec. Mais la présence n'est pas obligatoire. Puis on peut suivre les travaux sur le site de l'Académie. Il y a même un canal Académie où on diffuse les conférences. Je vais chercher à suivre les conférences de façon régulière, mais je vais venir probablement plus souvent à Paris que dans le passé, peut-être 3 ou 4 fois par année. À la fin, par exemple, de cette série conférence sur les regards sur la justice, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui va prendre la parole. Alors, moi, je tiens beaucoup à l'entendre. Il vient d'avoir des décisions du Conseil constitutionnel sur les questions d'immigration en France.
Oui. Qui font
un grand débat ici. Alors, mais je vais venir assez souvent et venir à Paris, c'est quand même pas une punition.
Non.
Moi qui aime l'opéra, ce soir, je m'en vais au théâtre des Champs-Élysées voir Didon et Aîné, puis j'ai vu, je recommande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, d'aller voir Aura aux Invalides, un spectacle créé par Moment Factory et qui est absolument extraordinaire. Il ne faut pas manquer ça. Alors, donc, je vais venir à Paris assez régulièrement dans les prochaines années et je succède à M. Morin, Jacques-Yvan Morin, puis c'est un grand privilège de succéder à un homme d'exception comme a été le vice-premier ministre de René Lévesque.
Très bien, ben merci beaucoup Daniel Turp, le juriste et le ménomane, et maintenant on peut dire académicien. Et à très bientôt, on pourra se reparler, peut-être dans des meilleures conditions techniques la prochaine fois. On demandera à Mathieu Bock-Côté son studio, hein, ça aurait été une idée.
Ah oui, c'est mais, vrai.
Donc,
je lui en parle.
La prochaine fois, ça sera mieux, mais on a bien compris votre propos. Puis on pourra élaborer là-dessus la prochaine fois encore. Merci beaucoup.
Merci Antoine, au revoir, bonne fin de journée.